Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, contente de vous retrouver ici, c'est dans le rétro. Chaque semaine, on part en balade avec un invité, on y évoque à travers sa vie et sa carrière des questions qui nous touchent, qui peuvent résonner en nous. On se découvre avec nos forces, nos vulnérabilités, nos joies, nos peines. Ce n'est pas l'homme public que nous invitons aujourd'hui, mais l'humain. Acteur, humoriste, il décode l'âme humaine, il détecte les nuances derrière chacun d'entre nous. Mon invité aujourd'hui, c'est Gad Elmaleh, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Gad Elmaleh.
Bonjour.
Vous êtes donc de retour avec un nouveau spectacle, lui-même au Dôme de Paris du 28 janvier au 15 février. Lui-même, ne serait-ce pas un titre à double sens ?
Ah oui, tout à fait. Vous y voyez tout à fait. Déjà, vous voyez deux personnes en moi. Il y a l'homme public, il y a l'humain. Et on est venus tous les deux d'ailleurs aujourd'hui. Ce titre, la première fois que Romane Fraissinet, avec qui j'ai écrit ce spectacle, me l'a suggéré. Je l'ai pas entendu comme lui l'entendait, l'imaginait. J'ai entendu lui-même, M'AIME, lui-même.
Voilà.
Et comme c'est un spectacle aussi qui parle du fait de ce cheminement pour aller vers le fait de s'aimer soi-même, je me suis dit, ah, ça colle bien. Mais on va l'écrire lui-même, même, M-E, accent circonflexe M-E. Et lui-même, c'est tout le travail que on fait et qui prend toute une vie avant de devenir soi-même.
Gad Elmaleh, depuis que vous êtes dans le studio, je bloque.
Pourquoi ?
Bah, vos cheveux.
C'est un coming out de cheveux blancs. Moi, depuis que je suis dans le studio, en revanche, j'attends un café. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'aimerais qu'on le dise à nos auditeurs, à nos téléspectateurs aussi, puisqu'aujourd'hui tout est filmé à la radio, on m'a proposé un café. Il n'est pas là. Donc,
à la SNCF ici, ça prend du temps.
Donc je ne commenterai pas cette déclaration qui risquerait de créer des problèmes pour mon prochain voyage en TGV. les cheveux, j'en parle dès les premières secondes de mon spectacle. Ils me sont très très bien, en tout cas avec les cheveux qui ont blanchi. Ils sont très courts parce que c'est plus simple, il n'y a pas de volonté stylistique capillaire. Et je suis très heureux de vieillir, plus heureux qu'avant.
Vous dites à 40 ans, vous en avez pris dans la gueule.
Ouais,
50 ans, ça va mieux.
Oui, j'ai l'impression d'avoir à 40 ans vécu un coup de vieux beaucoup plus fort qu'à 50 ans. À 50 ans, il y a une espèce d'énergie nouvelle, des nouvelles aspirations, inspirations, des projets physiquement. Il y a un souffle, il y a un esprit qui est là et qui m'accompagne.
Dans ce spectacle, Gad Elmaleh, c'est en ayant de l'autodérision que vous arrivez à amener certains sujets. Quand on reçoit des invités en interview, on sait qu'il y a des sujets justement qui sont un peu crispants. L'argent, la religion, la drague, le sexe. Vous, ça passe crème.
Ça passe crème parce que je pense, j'ose espérer que c'est... Pourquoi je dis j'ose espérer ? Non, je le pense profondément, c'est organique, c'est-à-dire que c'est ressenti, ça fait des années que j'ai envie d'aborder ces thématiques-là, je crois que j'étais pas prêt, c'était pas arrivé à maturité dans ma réflexion, j'y ai tellement réfléchi, j'ai tellement cogité sur ces problématiques et sur ces thématiques qui sont assez délicates, j'avoue, en humour, parce que c'est compliqué, on vit dans un pays où il faut le dire, la question de l'argent est un tabou, c'est pas un jugement sur les gens qui... C'est que notre histoire, l'histoire fait que, voilà, c'est un sujet qui crispe. Parler aujourd'hui des hommes par rapport à tout ce qui se passe avec les femmes et le combat, qui est important en tout cas, mais je raconte l'autre côté, je raconte les dérives de ça, je raconte aussi la religion, la foi, l'absence de spiritualité dans la laïcité. C'est que des choses que je ressens et c'est très proche de ce que je vis en tout cas.
Et c'est amené avec vraiment une grande autodérision. Moi, je me suis souvent demandé si apprendre l'autodérision, ce serait pas permettre à chacun de rire de tout, de pas être susceptible et donc de pas être blessé.
Merci, le café est arrivé.
Ah, ça y est.
Non, il faut qu'on le dise. Dans toutes les émissions du monde, il y a un moment où on ne sait pas quoi dire parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le studio. Là, avec beaucoup de gratitude, je vous dis merci.
Merci Kéké.
Kéké, voilà. Donc, elle s'appelle Kéké, je ne savais pas. Et je pense que je n'oserais jamais l'appeler Kéké. Je ne sais pas. Pourquoi Kéké ?
Parce que Kéra.
Écoute, merci d'aider.
Ah, j'allais dire Gagade, mais non.
Tu peux dire Gadou.
Gadou. Ah, Gadou.
Gadou. La Gadou, la Gadou. Ma maman m'appelait Gadou quand j'étais petit.
C'est vrai ?
Ben, c'est
je
pense
mignon.
Que c'est cet extrait qu'on retiendra. Ma maman m'appelait Gadou.
Vous vous rappelez ce que je vous ai demandé juste avant ?
Moi, j'ai l'impression que cette émission n'existe que sur Instagram. C'est-à-dire que France Bleu, la maison de la radio, des milliers de mètres carrés de locaux, de la sécurité, de la matière grise, de ce que vous voulez, pour moi, cette émission, c'est un reel. Vum. Je pense qu'en fait, c'est un reel, cette émission. C'est vum. En fait, vous avez dit, et c'est ça.
Du coup, je ne sais pas quoi répondre.
Ben vous n'avez pas à répondre, c'est un constat,
c'est
ça n'est absolument pas une question.
Vous vous souvenez ce que je vous demandais ?
Bien sûr.
Alors, c'était quoi ?
Les cheveux, non, c'était avant. Non, je pense que vous avez parlé d'autodérision.
Qu'il faudrait qu'on nous l'apprenne, en fait, l'autodérision.
Vous pensez qu'il faut que ça s'apprenne, l'autodérision ? C'est une forme d'humilité, donc d'intelligence. C'est une forme de maturité. Je pense que la maturité, elle s'acquiert par l'expérience de la vie, l'expérience de... Ça dépend de la culture aussi qu'on a. Moi, je viens d'une culture où ce qu'on appelait la chariade dans mon enfance, le fait de se vanner quand j'étais petit au Maroc, c'est dans la rue, c'est dans les esprits, c'est dans la famille, c'est ne jamais se prendre au sérieux. C'est fondamental. Le jour où t'arrêtes de te moquer de toi, ben, tu deviens un peu sérieux, voire ringard. Et le jour où t'arrêtes de te présenter quand tu rencontres quelqu'un et que tu penses que tout le monde te connaît ou alors que tu ne dois pas te présenter parce que t'es connu.
C'est ce que vous avez fait en arrivant.
Non, pas du tout. C'est tellement dur. Non, mais je vous le dis, Déborah, parce que très souvent, moi, il m'arrive de rencontrer des gens que j'ai jamais vus. Alors, je dis bonjour, la personne dit, Isabelle. Et moi, je dis enchanté, Gad. Ça va, je sais. Mais non, ne m'enlève pas ce truc d'humain de me présenter à quelqu'un qui ne me connaît pas. La notoriété, c'est une chose. Mais voilà, quoi, j'ai envie, moi, de me présenter.
C'est de l'humilité.
Non, même pas.
Bah, si.
Non, c'est pas de l'humilité, c'est de la vérité. C'est laisse-moi vivre aussi le truc de je me présente, quoi.
Ouais.
C'est pas parce que t'es connu que tu n'as plus le droit de te présenter. Laissez-nous nous présenter.
Gadou, je voudrais vous présenter Victoria juste en face de vous.
Je dis ça, mais pardon, je fais une parenthèse. Je dis ça, mais en même temps, il faut les comprendre, les gens. Je suis un peu con parfois. Je crois qu'on va un peu couper là-dedans, les amis. Vous montez beaucoup, faites du montage, vous
un
coupez.
Un peu. Ouais. Mais on aime bien garder aussi les.
Parce que les gens ont l'air toujours très intelligents dans votre émission.
Ouais. Gad Elmaleh,
oui,
Gadou.
Oui, tout à fait, Gadou, oui.
Avant de commencer notre voyage dans le temps, je voulais vous présenter la personne assise juste en face de vous.
Mais
Victoria.
Il n'y a personne, Déborah.
Ben Victoria.
Victoria, ça va ?
Elle est venue avec son chien.
Ah. Oh. Arrête. Ah, waouh, il est bien celui-là.
Il est bien, hein ?
Ouais. Alors, l'image, c'est autre chose. L'image, c'est un peu violent. À tous ceux qui nous regardent, surtout que les reels sur Instagram de cette émission de Déborah Grunewald, ce sont des reels en très très gros plan. Je pense que vous avez été choqués par l'espèce de métamorphose canine.
Alors cette personne, Victoria, en fait n'existe pas. Des rencontres lunaires comme ça, il y en a dans votre spectacle, Gad Elmaleh, parce que vous aimez les fous, les marginaux, les gens pas comme tout le monde en fait.
Je parle de la folie, je parle de la santé mentale, je parle de ces gens qu'on nomme les fous mais qui sont pas très loin de nous finalement et qui sont simplement des gens singuliers à part, qui ont vécu des choses tragiques parfois, douloureuses, des chocs. Il y a des gens qui ont des troubles psychotiques en effet, il y en a d'autres qui sont... On voit qu'il y a un problème, mais comme ils gardent toute leur capacité mentale, on sait pas trop, et ça donne des gens originaux. Et moi, je m'en amuse parce que je suis fasciné par ces gens et parce que je leur parle. Mais j'ai toujours été fasciné par la folie, par la santé mentale, sur les problématiques. J'ai vu souvent les documentaires là-dessus, j'ai souvent lu des textes de Foucault là-dessus. J'ai toujours eu envie de rentrer en contact avec ces gens qui sont différents, mais avec pas mal de tendresse quand même. Parce que dans mon spectacle, le personnage de Victor, qui est un personnage qui a une voiture imaginaire, d'abord c'est un homme que je connais. Alors j'ai exagéré tout, parce que sinon c'est pas drôle, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai de la tendresse au fond. Parce qu'à la fin, j'oppose ces gens marginaux à une forme de normalité chez certains de nos amis qui nous ennuient profondément. Et l'ennui, en fait, c'est ce que je crains le plus dans ma vie. Et parfois, avec des gens que j'aime profondément, ben, il m'arrive de m'ennuyer. Et c'est terrible parce que plus j'avance en âge et plus je deviens impatient et je m'ennuie vite, c'est pas bien parce qu'il faudrait que je fasse des efforts, mais parfois, j'ai pas envie de faire d'efforts.
C'est bien aussi de s'ennuyer parfois.
C'est ce
qu'on dit.
On dit
que c'est important.
Ouais, on dit ça pour les enfants, il faut qu'ils s'ennuient pour l'imaginaire et tout. Mais moi, c'est plus un dîner, c'est plus dans un échange. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux. Pas prétentieux, mais pas très sympathique, mais je m'en fous. Parce que je juge. À un moment donné, je suis à un moment de ma vie où je juge tout le monde.
Gad Elmaleh.
Là, je vous juge.
Et alors, vous dites quoi ?
Il y aura un débrief à la fin.
Ok, d'accord. Allez, c'est parti pour notre voyage dans le temps. Gad Elmaleh, vous naissez au Maroc, à Casablanca. Vos parents, David et Régine, sont commerçants. Vous grandissez dans le quartier d'Ayel Hassani. Il y avait beaucoup de pudeur dans votre famille et l'humour, c'était une façon d'être connecté. C'est plus facile de faire des blagues ou de montrer ses sentiments ?
J'ai eu peur de la fin de la phrase.
Pourquoi ?
De montrer, je ne sais pas pourquoi j'ai l'esprit mal tourné. Je ne sais pas pourquoi ça m'a...
En fait,
j'étais pris par un truc...
En fait, là, votre arrière-pensée est passée en lampe frontale.
Exactement. C'est une citation du spectacle.
Voilà.
Merci. Je vois que vous avez été très, très, très attentive. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est plus facile...
De faire des blagues que de montrer ses sentiments.
Ouais, complètement. Pas plus facile, mais en tout cas, c'est plus un instinct de... Alors, survie, le mot est grand. C'est un réflexe, en tout cas. C'est pas que ça demande moins de courage, mais il faut être après aussi quelqu'un qui a cette nature-là. Tout le monde ne peut pas faire des blagues pour se sortir de situations embarrassantes, de conflits, de crispations, d'humiliations.
C'est une fuite, alors ?
C'est une tentative de réparation, de se réparer, de réparer la situation et un peu de se sauver de l'embarras qui a été créé. Moi, je me souviens, je faisais des blagues aussi quand ça n'allait pas à la maison ou même qu'il y avait une petite dispute. Donc, c'était une manière pour moi d'adoucir, en fait.
Allez-y, vous devez tousser,
non ? Éternuer.
Ah.
Mais j'aime bien, on se dit tout dans cette émission.
Bah oui.
Il y a le café qui arrive, vous devez éternuer.
Vous n'avez pas éternué, du coup ?
Non, okay. Non, j'ai gardé l'éternuement pour après, j'ai envie d'en faire un gros dehors. J'en ai deux, trois depuis ce matin, j'ai une journée un peu... J'étais un peu débordé. J'ai un bâillement aussi, là. Tout à l'heure, je me fais un délire, je me pose dans un café, Non, mais plus sérieusement, j'observe ça parfois chez les enfants, chez mes enfants, cette volonté un peu d'enfumer, d'embrouiller, un peu de dissiper la tension... avec de l'humour, avec une blague.
Mais pourtant, c'est... vous êtes beaucoup plus, j'allais dire, sentimental aujourd'hui. En tout cas, on découvre plus cette espèce de sensibilité aujourd'hui. Ok.
Je sais pas.
Tout à fait.
Tout à fait, oui. Je sais pas tout commenter. Avant, je commentais tout.
Bon, si vous voulez pas commenter, quand je vous pose des questions, vous me dites, vous faites un silence non, et je comprendrai.
Non, moi, je suis là, je suis avec vous. Je suis content d'être là, d'ailleurs. Je vous ai dit, je vous regarde en reel, mais qu'en reel. En vrai. Because you're real.
Non, mais j'avais rien à commenter, là. En
oh,
fait.
Wow.
Oh, pop,
c'est
pop,
un
pop,
match
pop.
Serré entre la journaliste et l'humoriste.
Dans votre famille, Gad Elmaleh, je le disais...
Vous avez fait un silence à la Léa Salamé.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, j'ai jamais remarqué.
Ah bon ?
Ouais.
Ah ouais, elle sait les faire.
Il y a une façon ? Non, ça veut rien dire, là, en fait. Je sais pas pourquoi on parle de ça.
Il y a des silences qui font du bruit. Hein.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et puis, il y a des gens qui ouvrent leur gueule, ils ne veulent rien dire.
Bon, bref.
Dans votre famille, Gad Elmaleh, je le disais, l'humour, c'était une façon d'être connecté.
Oui.
Vous avez besoin d'être connecté aux gens, aux choses, aux sensations. Sinon, vous vous ennuyez, vous l'évoquiez tout à l'heure. Comment elle se traduit, cette connexion ? Qu'est-ce qui se passe ?
J'ai l'impression d'avoir une forme d'exigence dans mes rapports aux autres. Vraiment, je suis exigeant, ne veut pas dire chiant. C'est juste qu'il est très rare que je fasse du... Les Américains disent du chit-chat, du washi, washa, du schmoozing, du juste... Je sais pas, j'aime pas la superficie. La superficie. Karl Lagerfeld, il avait dit un truc tellement marrant. On lui avait dit, certains disent de vous que vous êtes superficiel. Mais il disait, oui, en effet, certainement, mais avec une grande superficie. Il avait de l'esprit. L'esprit, ça me fascine. L'esprit, ça me... Je suis absolument fan des gens qui ont de l'esprit. L'autodérision, n'en parlons pas. Mais surtout l'esprit.
Gad Elmaleh, on est tous chargés d'un héritage culturel, familial. Il y a des choses qu'on ne se permet pas pendant de nombreuses années. Et puis quand on devient adulte, ou mari, ou parent, on se déleste d'une partie de cet héritage. Est-ce que ça a été votre cas ?
Oui, certains interdits même, certaines craintes d'aborder. Moi, c'est une question d'éducation. Et souvent, quand on me dit « c'est marrant, dans tes spectacles, tu dis jamais de mots grossiers, tu parles jamais de sexe. » Alors, en rigolant à moitié, je dis à ces gens-là « c'est vrai, mais moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. » Et un jour, un journaliste m'a dit « vous ne parlez jamais de sexe et jamais de mots grossiers dans votre spectacle » et je lui ai répondu « mes parents sont vivants ». Et en fait, c'est pas juste la peur de mes parents « oh là là, l'enfant va se faire engueuler ». C'est juste qu'on a grandi avec des valeurs, une éducation, des limites, des bornes comme ça qui m'ont accompagné toute ma vie. On peut en penser ce qu'on veut, on peut le juger, on peut penser que c'est strict, que je sais pas, mais c'est ma réalité. Le jour où j'étais voir Redouane Bougueraba au stade Vélodrome, on arrive dans les coulisses et il me dit « je te présente ma mère ». J'ai dit « maman, elle était là, elle était là quand t'as dit « j'ai envie de biper même les trucs ». Oui, elle était là et ça m'a touché parce que, en fait, bon, voilà, lui, il passait outre parce que c'est son langage et c'est son ADN, quoi. Et ça m'a touché de voir sa maman.
Mais c'est genre, ça vous met mal à l'aise ? Ça vous mettrait mal à l'aise de parler comme ça ?
C'est juste, ça ne me ressemblerait pas et donc je serais pas naturel.
Ouais,
si je suis pas naturel, ben, je suis pas drôle. Et si je suis pas drôle, c'est terrible.
Ouais.
Et moi, j'ai envie d'être drôle avec ce que je suis. Donc, on va dire que pour pouvoir être drôle avec des gros mots, parler de sexe, il faut déjà que je mette en place le fait que je vais parler de ça et cette gêne, etc. Sinon, c'est pas naturel.
Vous parlez quand même de cucu, hein.
Oui, je compare la force du mot cul par rapport à.
Ah, vous avez eu du mal à. Il n'est pas sorti,
non,
vraiment.
Il est sorti, il est sorti. Il n'a pas été bipé. Non, mais c'est. J'explique que la langue française est injuste parce qu'il y a deux fois cul dans cucu et cucu, c'est beaucoup moins grossier que cul. Et le mot cul, il est très. Ouais, c'est. Tu peux. Enfin, voilà, quoi. Mais quand tu fais du stand-up, ça ne peut pas dissonner. Exemple, quand j'ai été faire du stand-up aux États-Unis, je suis arrivé avec mon accent. Je ne pouvais pas juste me présenter devant les gens et commencer mon sketch. Il faut que je parle du fait que j'ai un accent. Pourquoi j'ai un accent ? Parce que je viens de France, je suis né au Maroc, je veux faire du stand-up en anglais. C'est toujours faire état de ce qui se passe.
Ouais.
Si demain vous allez dans un comedy club et qu'il y a un ou une humoriste qui monte sur scène avec mais vraiment un œil comme ça et qui saigne du nez, si elle n'en parle pas, il y a un problème.
Vous n'êtes quand même pas allé aux États-Unis avec la baguette et le béret ?
Non, mais j'ai parlé de leur perception de Paris, par exemple, en tant qu'Américain. La première fois qu'une Américaine m'a dit « j'ai trop hâte d'aller à Paris, me promener sur ces petites rues sinueuses avec des pavés le soir, après minuit », je lui ai dit « c'est dangereux ». Elle pensait à Ratatouille, quoi. Moi, je lui ai dit « c'est dangereux ».« Yeah, it's dangerous, don't go there ». Et parfois, ils me décrivaient un Paris, les Américains, et je me disais « j'ai jamais été dans ce Paris, j'aimerais bien y aller ». Si vous le savez où c'est, je veux aller avec vous.
Gad Elmaleh, téléportation. Nous sommes maintenant sur la plage Aïn Diab de Casablanca. Il y a là votre père. Vous êtes encore enfant. Il pointe du doigt l'horizon et vous dit de l'autre côté, il y a l'Amérique. Comme s'il fallait être ailleurs pour s'accomplir. Est-ce que vous pensez que les adultes doivent accompagner les rêves de leurs enfants ?
Waouh ! Il y a plusieurs choses que je pense par rapport à cette question. Déjà, je le pense aujourd'hui, je ne le pensais pas avant. Je ne pense absolument pas que tous les rêves sont faits pour être réalisés. Et ce sont des moteurs pour aller autre part. Et les rêves, ce sont des énergies, ce sont des dynamiques qui sont là pour nous guider, parfois même sur des chemins qui ne sont pas les bons, pour comprendre, pour faire les erreurs, pour vivre des choses qui affinent, si on est à l'écoute, à son écoute, et si on est connecté à soi-même. Et on patine un peu tout ça et on l'affine jusqu'à temps qu'on se dirige vers le chemin qui est le plus organique, le plus naturel. Après, par rapport aux enfants, c'est intéressant. Je me pose cette question. J'ai un enfant qui va avoir 11 ans dans quelques jours et on parle beaucoup. Et je crois que la raison, la logique n'a pas sa place quand un gamin dit le rêve qu'il a. L'ambition, c'est pas forcément la performance. C'est pas parce qu'un enfant dit qu'il veut... avoir le plus d'allumettes possible au monde, que son rêve est moins grand que s'il te dit « je veux être président de la République ».
J'ai pas compris l'image avec les allumettes.
Alors, c'est pas là. Ce que je veux dire par là, c'était un détail plutôt qui convoque pas d'image de performance, de réussite, de fulgurance et de compétition. Mais un enfant qui te dit que son rêve, c'est tout simplement de pouvoir avoir dans sa chambre le plus de voiture, où ce rêve-là ne vaut pas moins qu'un gamin qui te dit « moi, je serai un jour président de la République ».
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a des rêves qui peuvent paraître inaccessibles.
Ouais,
aussi.
Mais peut-être que celui qui veut les voitures et les oranges et dont le rêve est de mettre le plus de caramel sous son lit, c'est peut-être lui qui va être président de la République. Et après, président de la République, avec tout le respect que je dois à notre président de la République, c'est pas non plus, ça va, quoi.
Gad Elmaleh, vous êtes aussi un enfant timide. Il y a une phrase qu'on entend souvent dans ce cas, c'est « arrête de faire ton timide ». On peut l'entendre à la maison, à l'école. Vous, vous dites « on a le droit d'être timide ».
Ben, soyez timide. Je ne l'ai pas su, on ne m'a pas aidé avec ça. Moi, je le dis aux enfants timides. Quand les parents devant moi disent à leurs enfants « dis bonjour, sois pas timide ».
Je le fais.
Dis-lui « sois pas timide ». Mais même moi, je le fais, alors que je suis en train de vous dire le contraire, mais j'essaie de me soigner. Arrêtons de dire à nos enfants qu'ils ne soient pas timides. Nos enfants, s'ils ont besoin d'être timides, soyez timides autant que vous avez besoin d'être timide. C'est une étape. Alors après, posez-vous des questions si votre enfant est dans un mutisme pendant des années et que socialement, il n'arrive pas à connecter avec personne. Mais un enfant qui est timide, on est timide nous-mêmes.
C'est super handicapant aussi d'être timide dans cette société. C'est pour ça qu'on les pousse à être
ouverts. Oui, mais les timides, ils ont des mystères, ils ont des secrets, ils ont des trucs intéressants. Les gens très à l'aise me mettent mal à l'aise, moi. Les gens très à l'aise en société, ils ne sont pas tellement attirants, ils ne sont tellement pas intéressants. Dans la démonstration, je parle de l'alésisme. L'alésisme, c'est un courant, bien sûr, de philosophie qui est...
L'alésisme.
Non, mais le fait d'alésien. Ah non, Alphonse Allais, c'est autre chose. Très drôle d'ailleurs. Sur le mot, sur le verbe.
Non, mais... l'alésisme, Donc c'est allez-y.
Ah, oh, allez-y, ouais, l'allez-y, c'est allez-y. Ou alors, c'est ceux qui sont fans de Jean Allez-y. Ou alors, qui sont très à l'aise. Donc il y a trois courants. Mm. Mais vous lirez mon livre à ce propos qui s'appelle À l'aise et.
Et malaise. À l'aise et malaise.
Elle malaise.
Oh, c'est con.
Oh là là, Gad Elmaleh.
Gad Elmaleh. Enfant, vous allez à l'école Georges Bizet à Casablanca. On va aller faire un tour dans un autre quartier. On va pas aller au Niagara, ni au Beaulieu, ni au Parapet, ni au Sas. À la rigueur, on va s'acheter un des Fench jusqu'en face du lycée. On est au 260 boulevard Zirawi en 1980. Vous êtes là, vous entrez en 6e au lycée Lyautey. C'est un établissement dans lequel on retrouve des élèves de différentes communautés, de différents horizons. C'est à l'école qu'on doit apprendre la fraternité, selon vous.
La fraternité, l'écoute, la compréhension, la connaissance de l'autre, ce que les politiques, les institutions ont appelé le vivre ensemble, ne peut pas être vécu, ne peut pas être expérimenté si on ne se connaît pas. Il ne peut pas opérer comme ça. Vivre ensemble, tu peux faire des campagnes toute la journée, les politiques peuvent en parler, tu peux mettre des panneaux partout du vivre ensemble. C'est comme, on fait comment pour vivre ensemble? En fait, vivre ensemble, c'est se connaître. Ça veut dire que les communautés doivent se connaître. Et sous prétexte de laïcité, à laquelle je suis attaché, qui est indispensable dans un pays en France, on évacue les communautés, la religion, les cultes. Et il y a des communautés de différents cultes, de différentes religions. Et il y en a beaucoup et très différentes. Mais on n'en parle jamais. Et je pense que les gamins à l'école devraient avoir un moment, pas d'éducation religieuse, on n'a pas besoin de ça. Il y a des écoles religieuses dans chaque communauté qui le font. Mais juste un moment où on apprend c'est quoi un juif, c'est quoi un musulman, c'est quoi un chrétien, c'est quoi un catholique, c'est quoi un protestant, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ses croyances, c'est quoi leur histoire. Il faut qu'un enfant en France, quand il va au primaire, il se dise j'ai le droit de ne pas croire en Dieu. J'ai le droit de croire en Dieu. Je ne me cache pas parce que je suis juif. Je ne me cache pas parce que je suis catho. Je ne me cache pas parce que je suis musulman. La laïcité, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut donner aussi la voix à ceux qui veulent pratiquer leur culte, célébrer leur identité et la célébrer ensemble. Et se connaître. Moi, je pense que si on ne se connaît pas, si on ne va pas les uns vers les autres, c'est mort. On m'a reproché souvent d'aller dans des églises. Mais c'est quoi ce truc? Dieu a autre chose à faire en ce moment, franchement, que... que juger ça. Et je pense qu'on doit aller les uns vers les autres, on doit aller dans les lieux de culte les uns des autres. On ne change pas qui on est profondément, notre ADN, notre identité. Tu es né juif, tu es né musulman, tu es né chrétien. Tu ne vas pas changer. Tu peux faire tous les détours que tu veux. Toi, c'est toi. Mais tu crois que si je vais dans une mosquée demain ou dans une église, je suis quoi? Je suis, ça y est, j'ai changé de religion. Non. Et je continuerai à le faire d'ailleurs avec beaucoup de fierté, de fraternité et de plaisir. Parce que ça sent bon les églises.
Cette année, Gad Elmaleh, dans certaines écoles, on propose des cours d'empathie. On enseigne la bienveillance, le respect, la tolérance. Vous trouvez que ça, c'est une bonne idée?
Mais oui. Alors après,
cours d'empathie.
Après, c'est un peu marrant. Après, pardon, moi, mon métier, c'est humoriste. Quand j'imagine les gamins disent « je te laisse, je suis à la bourre, j'ai cours d'empathie », c'est super marrant. Mais c'est super, c'est intéressant. Ça rejoint un peu finalement ce que je vous dis là, parce que je suis en train de développer cette pensée-là en temps réel finalement. Je me dis, est-ce que ce cours-là, est-ce que ce lieu-là, ce serait pas le même lieu qui apprendrait les différences, mais toutes les différences, au niveau de la sexualité, de l'orientation sexuelle, à l'heure du grand débat sur le genre et tout, peut-être d'en parler, plutôt que d'avoir à chaque fois des espèces de tabous, on réprime, alors on juge les gens parce qu'ils ont fait un faux pas. Il faut qu'on arrête de s'attendre au tournant tous. À un moment donné, il faut qu'on essaye de vivre ensemble, mais profondément. Il faut qu'on arrête de se dire, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce qu'il a dit, apprenons ce qu'il ne faut pas faire et pas dire.
C'est pas utopique?
Non, pas du tout. Mais non, c'est absolument pas utopique. C'est utopiste.
Tout est fait.
Utopiste ou utopique?
Utopique.
Évangélique ou évangéliste?
Évangélisme.
Oh.
Mot de compte triple.
Ben oui, il y a Ève, il y a angélisme. Mmh. C'est bien.
Je disais quoi?
On parlait de la bienveillance, on parlait de la religion, on parlait de la tolérance, on parlait des cours d'empathie. C'est juste que c'était marrant, en cours d'empathie, c'est comme si on disait on a un cours de gentillesse ou de...
Enfin,
comme...
c'est ça.
Mais ce serait génial parce qu'on apprendrait plein de choses et puis on aurait des intervenants peut-être qui parleraient de leurs convictions, leur communauté. Parce qu'on est souvent dans des projections, on est souvent dans ce qu'on pense, que pensent les gens concernés. Non, il faut parler vraiment aux gens concernés.
On est tout le temps dans le commentaire et encore plus dans la société actuelle. On commente tout.
Alors, c'est un vaste débat. On est dans une société algorithmée qui fait qu'on est conforté et nourri par des algorithmes qui nous donnent exactement ce qu'on aime par rapport au fait qu'on a aimé, donc on nous resserre ce qu'on aime et on est conforté dans le fait que ce qu'on aime c'est bien puisqu'il nous le donne. Mais s'il nous le donne, c'est parce qu'on l'a aimé, c'est pas parce que ça existe. C'est pour ça qu'on a dans nos entourages tous des copains qui pètent un câble tout à coup dans un dîner ou dans un truc. T'as vu ce qu'a dit machin ? Non, non, c'est ton algorithme à toi. Et il y en a un, c'est les pneus, l'autre c'est la religion, il y en a une, c'est l'Amérique, il y en a un autre, c'est les croissants. Ils sont chacun dans leur délire et ils pensent que le monde entier est concerné par leur algorithme. Faut se désalgorithmer. Et il ne faut pas être victime de cette auto-nourriture qui est super malsaine, en fait.
Qui isole, qui enferme.
Qui isole, oui.
Gad Elmaleh, à 17 ans, vous quittez le Maroc, destination le Canada. Vous étudiez les sciences humaines. Vous allez parfois au Café Campus pour les lundis juste pour rire, où des humoristes viennent tester leurs blagues. On part maintenant en 1992. Nous sommes dans l'avion, vous quittez le Canada pour la France, vous avez 21 ans. Là, dans cet avion, vous écrivez de la poésie. En retombant sur vos textes que vous avez écrits ce jour-là dans l'avion, vous vous dites « Quand on est jeune, on est maladroit, mais on a une forme de vérité et d'assurance. » Cette assurance, on la perd en grandissant ?
Oui, j'ai relu des poèmes, ouais, c'est des fulgurances philosophiques que j'écrivais à l'âge de 19 ans. Il y a une assurance, il y a une forme. C'est pour ça qu'on pense parfois qu'il y a une forme d'arrogance ou d'insolence plutôt d'insolence dans la jeunesse. C'est intéressant, c'est ce qui m'arrive parfois avec beaucoup de tendresse quand je vois les jeunes humoristes. Et j'adore voir quand les choses leur échappent. Quand un jeune humoriste est très contrôlé dans ce qu'il fait, il est performant, certes, mais il n'a pas la grâce. Mais quand il y en a un qui ne sait pas ce qui vient de lui échapper, ça me met les larmes aux yeux parce que je me dis « waouh ».
Qu'est-ce qui fait perdre confiance et qu'est-ce qui, au contraire, nourrit la confiance, selon vous, Gad Elmaleh ?
Waouh ! Qu'est-ce qui fait perdre confiance ?
Ouais.
L'entourage peut te faire perdre confiance. C'est le manque d'honnêteté de ton entourage aussi. J'ai connu beaucoup d'artistes qui étaient... juste encensés, câlinés, chouchoutés par leur entourage et qui n'avaient pas la chance d'avoir des gens pour leur dire la vérité. Et ben, ils se sont perdus en chemin et ils ont perdu confiance parce qu'on leur a trop donné confiance. C'est ce qui fait perdre confiance, c'est ça. Ce qui donne confiance, je crois que c'est quand les épreuves, les efforts, ce qui paraît a priori au moment où on le fait, est dur, contraignant, qu'on n'a pas envie de le faire et que ça réussit, que ça marche, c'est comme un étage de plus, un step de plus, et c'est un peu comme ce qu'on apprend aux enfants dans le sport. Cet étage qu'on a gagné, on ne le perdra jamais. Alors que la flagornerie, la flatterie, le chouchoutage, le caressage de poils, instantanément, c'est agréable, mais on le perd juste après, puisque la vie nous impose sa logique, sa réalité. En revanche, une épreuve, un spectacle difficile, un job qu'on n'a pas eu et pour lequel on se bat, la contrainte en fait, la contrainte, ouais. L'effort forge en tout cas un tempérament, je pense, de confiance en soi. Parfois, c'est même héréditaire, il y a quelque chose qui se transmet ou pas. Je connais des enfants qui ont des parents qui sont super dans la communication, qui donnent tout à leurs enfants, tellement d'amour, et qui sont très dans la transmission, l'éducation dans les meilleures écoles, et les gamins, ils sont tétanisés, ils n'ont pas confiance en eux. Je connais des gamins dont les parents non pas s'occupent pas d'eux, mais presque.
Ouais.
Et ils ont une grande confiance en eux.
Gad Elmaleh, quand vous arrivez en France, vous avez un but.
Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
Conquérir Paris, conquérir la France, conquérir le monde, l'univers, l'infini et au-delà.
Surtout.
Je m'emballe.
Non, c'est l'au-delà surtout.
L'au-delà.
Non, l'au-delà. Ouais.
Non.
Il vaut mieux un café d'ici que de l'au-delà.
Ah, c'était pas très drôle.
Non, j'ai dit il vaut mieux un café d'ici que de l'au-delà.
Ah si, oui, c'est pas mal.
Ah, mais ça s'appelle ici maintenant.
Bah, ici, ça s'appelle ici.
Hein, donc il vaut mieux un café d'ici que de l'au-delà.
Que de l'eau de là-haut aussi, on aurait.
Ah,
que de l'eau de là, de l'eau de là-haut.
De l'eau de l'eau, de l'eau de là, de l'eau de là-haut. C'est qui ça? C'est Véronique Sanson. De l'eau de l'eau, de l'eau. De l'eau de l'eau, de l'eau de l'eau, de l'eau de l'eau, de l'eau de l'eau. Oh, elle fait ça. Oh.
Gad Elmaleh,
si tu nous écoutes.
On vous retrouve en tournée au Dôme de Paris du 28 janvier au 15 février.
Non, mais il y avait un truc avant, on était sur une idée, on l'a laissé tomber.
Ouais, mais on n'a pas trop le temps en fait.
C'était quoi? Ok, on coupe ça. Ok, c'était
quoi? Non, on va garder. C'était quoi? Vous vouliez conquérir Paris.
Ah oui, conquérir Paris, oui, d'accord. Mais conquérir, je veux plus rien conquérir moi. Ça, c'était avant.
Ouais.
Ouais.
Puis maintenant.
C'est pas le but de conquérir. Voilà une étape. Le rêve qui m'a montré que conquérir, c'est pas comme en amour, comme en amitié, comme dans le métier, comme conquérir. Non, conquérir, c'est tellement pas intéressant. Le proverbe américain, don't chase, attract. Attire.
Gad Elmaleh, en arrivant à Paris, vous prenez des cours de théâtre.
Je me mets encore plus dans la merde, là.
Je sais.
Vous prenez donc des cours de théâtre pour devenir comédien. Vous rencontrez des gens qui ont compté énormément dans votre parcours. François Florent, Joséphine Derennes, Marc Le Bûcher, Hervé Briot, Isabelle Nanty. C'est eux qui vous donnent confiance pour devenir humoriste. Téléportation. Nous sommes à Paris, à l'Olympia, en 1994. Un humoriste fait son entrée sur scène.
Oh, jeune. Oh, tu sais qui je suis, oh. Oh, tu sais qui je suis, oh.
Eli Kaku, c'est à chaque fois beaucoup d'émotions quand j'entends sa voix, parce que la drôlerie immédiate, l'efficacité, la vis comica, comme on dit, mais une mélancolie, une forme de poésie, de mélancolie qui m'a toujours touché, qui m'a toujours marqué. Et moi, j'ai toujours pensé que chez Eli Kaku, il y avait plusieurs lectures. Il y avait le personnage qu'on voyait avec ses déguisements, ses accoutrements, ses postures, sa gestuelle. Et derrière, il y avait toujours un cœur immense, connecté au public avec une sensibilité immense, avec une fragilité.
Avec un mal de vivre un peu.
Aussi, voilà. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés. J'ai souvent Eli dans ma tête, dans mon cœur.
C'était un ami ?
J'aurais aimé, en fait, moi, que ce soit un ami, mais bon, pas la même génération, pas la même notoriété. C'était plus le jeune, le gamin qui traînait autour d'Eli Kaku, quoi.
Je vous posais cette question concernant l'amitié, parce que je voudrais qu'on parle des potes, justement. On a parfois des amis chiants. À quoi ça ressemble, un ami chiant ?
Ce que je décris dans le spectacle, c'est cette espèce de paradoxe. Quand on est jeune, on est avec nos amis, on a le même rythme, les mêmes activités. On est jeune, on a du temps, et puis après, ça se délie, ça se sépare forcément, et les expériences de vie sont différentes, et on s'éloigne, même si on se voit souvent, on s'éloigne. Et on se revoit, et puis si on n'a pas évolué exactement dans les mêmes énergies, ben moi je perds patience, et les amis que j'aime le plus au monde, ils me le disent. Ils me disent arrête d'être impatient, c'est juste que leurs histoires sont trop longues, et que leur rythme de récit est trop lent. Donc voilà, mais c'est je sais pas.
Être ami, c'est toujours se dire la vérité ?
Non. Non, être ami, c'est savoir dire la vérité quand il le faut. Savoir ne pas la dire si on l'aime, l'ami. J'ai relu une citation sur l'amitié récemment, et c'est marrant parce que moi, je l'ai écouté de la part de Hassan II, feu Hassan II, roi du Maroc. Un ami qui n'est plus ton ami n'a jamais été ton ami. Et je trouve ça fondamental. Mmh. C'est-à-dire que l'amitié, elle n'est pas fragile. Elle est soumise à des chocs, des chaos, des fulgurances, des vertiges, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, mais elle n'est pas fragile. Si quelqu'un perd totalement confiance en toi parce que ça ne va pas, ce n'est pas vraiment ton ami. Et ce n'est pas quelqu'un de très intéressant pour toi. Tu peux le garder comme une relation. Moi, il y a des gens dans mon entourage, je ne suis plus fâché parce que je suis beaucoup dans le pardon et j'essaie de pratiquer ça comme un... Le pardon, c'est devenu un mantra pour moi, c'est devenu une philosophie de vie. C'est dur, hein, mais vraiment, au quotidien, je prie pour arriver à pardonner. Je prie vraiment tous les jours, ça.
On va en parler.
Mais il y a des gens de qui je me suis éloigné, pas parce que je les aime pas. C'est juste que je sais qu'ils sont pas bons pour moi. J'ai besoin de cette rupture pour que je vive bien. Et à l'âge que j'ai, au moment de ma vie, le moment de ma vie où je me trouve, j'ai absolument pas envie de faire des efforts pour des gens qui sont pas animés de... Mais je les laisse, quoi. Je suis pas dans la vengeance, dans la revanche. Mais voilà, et une autre citation en parlant des amis qu'on a peut-être perdus, ça c'est plutôt Tupac qui l'a dit, le rappeur. Il dit « c'est pas parce qu'ils m'ont perdu comme ami qu'ils m'ont gagné comme ennemi ». Et je trouve ça très très beau. Mais l'amitié, c'est tellement beau, ça se travaille, ça s'entretient, ça se chérit, c'est une relation, quoi. C'est comme c'est pas une relation de couple, mais moi avec mon ami d'enfance, on a toutes sortes d'étapes. C'est ça qui est beau d'ailleurs. On fait même des breaks parfois.
Ah ouais ? Gad Elmaleh, votre premier spectacle, c'est en 1997, décalage. Il y a ensuite La vie normale et L'autre c'est moi en 2005.
Je lui ferai l'amour pendant des heures entières sans jamais m'arrêter. Hein. C'est un sketch aussi, hein. C'est pas... crois que j'ai l'occasion de dire ça dans ma vie, moi, ou pas ?
L'amour, sujet universel que vous évoquez aussi dans votre nouveau spectacle. Vous nous expliquez que les femmes avec de l'esprit, ça vous excite. Vous êtes plus attirée par l'intellect que par le physique. Vous êtes donc sapiosexuelle. Alors, je ne connaissais pas, mais grâce à la presse, il y a ce titre-là partout.
Alors, c'est, qui moi, révèle... c'est moi qui le montre.
Oui, mais...
Non, donc, mais c'est un terme qui existe depuis longtemps.
Mais alors, moi, je ne connaissais absolument pas, mais là, la presse
révèle...
Vous ne lisez
révèle... pas assez les magazines féminins.
Voilà. Révèle votre sapiosexualité. J'ai appris, oui, un nouveau mot.
Je vous avoue que moi aussi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ah. Non. En fait, quand j'ai lu ce qu'était qu'être sapiosexuel, je me suis dit, ah, mais c'est... Alors, dans l'interview pour Paris Match, que j'ai faite avec Christophe Carrière, je l'ai utilisé presque en rigolant, parce que ça nommait quelque chose d'une manière très technique. Mais ça a été repris, et tant mieux si les gens trouvent le mot qui correspond à leur forme d'attirance, de sexualité. Et moi, en tout cas, je crois que je suis un sapiosexuel. Ouais.
Donc un sapiosexuel, pour les sapios, on pourrait les appeler
sapios. C'est pas hétérogenré, la sapiosexualité.
C'est pas une orientation sexuelle, mais ça a été vendu comme, sur certains titres de presse. C'est un peu, ça fait le titre.
Ah oui, d'accord.
Il révèle sa sapiosexualité.
Et là, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il fait avec son sexe ? C'est quoi sapio ? Chérie, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ? Il y a des accessoires ? Non. C'est...
Alors,
allez-y.
Pour les sapios, c'est
définir
l'intellect.
Ce qu'est la sapiosexualité ?
Sapiosexualité, en fait, c'est l'intellect, la discussion, l'intensité, la qualité de la relation qui sont plus importantes que la beauté. Vous aimez donc normalement les longs échanges, les grandes discussions, vous aimez la complexité des relations, les nuances, les débats amoureux, autant que les ébats d'ailleurs.
Totalement.
Mais pas
uniquement la complexité, la longueur des échanges, le frisson d'une connexion intellectuelle, ouais, le kiff, la vibration d'une complicité intellectuelle par l'humour, qui est un langage, et c'est même très érotique, je trouve très très érotique d'avoir un rapport avec l'autre, mais je crois que c'est très 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 intense et très grisant et très important. Plus, oui, que l'a priori physique. Ouais. Alors après,
vous avez toujours été avec des belles nanas quand même, des belles
alors,
filles.
Alors, sauf, hein. Je voulais vous dire.
Balancez.
Vous voulez dire
par
rapport à moi, vous voulez dire.
Ouais.
J'ai eu de la chance. Par exemple, là, vous m'avez fait perdre confiance.
Vous avez eu vraiment de la chance.
Mais parce qu'elles étaient sapio. Mais moi, je n'étais pas sapio à l'époque. Il n'y avait que elles qui étaient sapio.
Aujourd'hui, Gad Elmaleh, vous êtes prêt à aimer et à être aimé. C'est ce que vous dites sur scène. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt auparavant ?
Non, je ne m'aimais pas assez. Je ne m'aimais même peut-être pas.
C'est très classique de dire oui, mais il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres et d'être aimé.
Mais bien sûr que c'est classique. Mais vous savez tout ce qu'on a dit de classique depuis le début
ouais,
de l'entretien ?
Oui, c'est vrai. Bah ouais.
Non,
ouais.
Pas trop. On a été assez irrévérencieux.
Ah ouais, ouais.
Il est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu un cliché ou alors un truc un peu bateau ou niant-niant ou nunuche ou même cucu, puisque j'ose maintenant, de dire je peux aimer et être aimé parce que je m'aime, mais c'est la réalité. J'ai connu autour de moi des gens très, très, très successful. Pourquoi on le dit en anglais immédiatement ?
Bah, c'est vous qui le dites en anglais, ouais. Moi je ne sais pas pourquoi.
N'importe quoi. Bah. Avec une foule de succès.
Mmh. Avec
un succès fou. J'ai connu des gens qui ont réussi des choses importantes, qui étaient même, je sais pas, des stars internationales de cinéma, et qui ne s'aimaient absolument pas. Et moi, je suis passé par une période où j'avais la chance de me produire devant 5, 6, 10 000 personnes, et je rentrais dans ma chambre d'hôtel, et j'avais une mélancolie folle, et j'arrivais même pas à un moment donné à apprécier. Je dis, mais t'as un problème de... Et j'ai fait le travail, quoi. J'ai fait le travail sur moi pour aussi apprécier
ouais,
ce que je mérite d'apprécier.
Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas réellement et qui sont pourtant amoureux, qui sont en couple et qui ont l'air plutôt bien.
Ça leur réussit après, parce que ça altère pas leur relation. Moi, je sais que le fait de pas s'aimer, pour moi, c'est un peu... On va essayer après dans le couple. Je suis pas un spécialiste. Hein. Je parle comme Christophe André, mais le gars, il est tout aujourd'hui. Il fait tout. Frédéric Lenoir, Christophe André. Non, c'est vrai que je crois qu'on va essayer de pallier et à des manques. On va mettre en activité des schémas, des patterns pour faire un anglicisme. Moi, j'essaie de
ça
travailler.
Ça veut dire quoi des patterns ?
Ben, c'est un schéma. C'est d'accord. Un schéma qu'on a eu dans l'enfance et qu'on reproduit dans le couple, qu'on reproduit dans le travail. Et puis bien souvent, quand on a des choses qui nous touchent profondément, quand on se prend un coup de poing dans le bide, c'est rarement l'événement lui-même qui déclenche ça. C'est ce que ça évoque chez nous, c'est ce que ça convoque chez nous, de nos blessures d'enfance. Je sais pas, j'ai l'impression d'être le consultant en psychologue aujourd'hui. Le nombre de gens qui vont se dire, mais dis donc...
Mais vous avez étudié les sciences humaines aussi, ça joue.
Les
hein.
sciences humaines et les sciences politiques, tout à fait. Et la théologie.
Gad Elmaleh, il y a un sketch qui est très drôle dans votre spectacle, c'est votre rencontre avec Manon. On va pas la raconter, mais ça me permet de vous poser une question.
Ouais.
Les codes de la drague et de la séduction changent. Est-ce que ça a une incidence sur les rapports amoureux ?
Je crois qu'on est dans une transition. Ça va devenir totalement différent après, parce qu'on aura intégré, absorbé cette transition emplie de précaution, prudence, j'espère, attention,
crainte.
Je pense que c'est différent et c'est la raison pour laquelle aussi les gens font des rencontres numériques, font des rencontres... Mais c'est très différent. Moi, j'ai tenté, j'étais à un moment donné sur une application de rencontre. C'est une application qui était faite soi-disant pour des gens connus ou des gens... Je peux la nommer, elle s'appelle Raya. Donc c'est une application qui existe encore. Moi, j'y suis plus, mais je voulais voir ce que c'était que ce truc. Comment tu te rencontres sans te connaître et comment tu... Et comme il y avait beaucoup de gens de l'étranger, je me suis dit, comme ils ne me connaissent pas, ben, je vais voir si je plais vraiment. 95% des femmes sur cette application, elles sont en Hollande, aux États-Unis. Sauf que ton truc de référence pour elles, c'est ton compte Instagram. Donc, quand tu es identifié par un compte Instagram avec 2 ou 3 millions de followers, elle ne se dit pas qu'il est anonyme, le gars. Et donc, ça fausse déjà les choses. C'est intéressant. Et donc, même sur le numérique, sur l'abstrait, sur le distant, c'est faussé. Mais les nouvelles générations qui ne passent que par ce type de rencontres, je pense qu'il y a quelque chose qui est logique, c'est dans l'air du temps, mais sans faire le boomer, on peut aussi passer à côté d'une forme de rencontre, au sens profond du terme, de deux âmes qui se rencontrent. Deux âmes, deux corps, deux âmes, deux regards qui se rencontrent, c'est quand même la chose la plus folle.
Mais là, vous parlez de système de rencontre, comment rencontrer une personne.
Oui.
Moi, je vous parlais plus sur les rapports amoureux, sur la façon dont on se comporte quand on voit la personne, c'est-à-dire premier rencard, deuxième rencard,
non,
etc.
Je crois qu'on est plus prudent, c'est normal.
Ouais.
Oui, je pense que c'est normal. Je crois que on est conscient de tout ce qui se passe, on est absolument concerné aussi. D'ailleurs, j'ai longtemps pensé que le problème des abus faits aux femmes, c'est pas le combat des femmes seulement. Ça n'appartient pas qu'aux femmes, ce combat.
Beaucoup reprochent que les hommes, on ne les entend pas assez.
Je sais pas. Alors, je sais pas s'ils le reprochent, mais en tout cas, moi, j'ai profondément la conviction, et pas sur ce sujet-là uniquement, mais sur beaucoup d'autres sujets où une minorité, une communauté, c'est les femmes sont ciblées. Je pense que c'est l'affaire de tout le monde. L'antisémitisme en France, c'est pas l'affaire des juifs. Les juifs sont les victimes d'antisémitisme, mais c'est l'affaire des cathos, des musulmans, de tout le monde, et d'autres exemples. Mais ça, je suis profondément concerné par ça. Mais pour revenir à ce que je dis dans le spectacle par rapport à ça, j'exagère la forme de réserve qu'on peut avoir et on se prémunit. Je parle bien aujourd'hui. Voilà, on a une espèce de barrière de défense. Je ne veux pas dévoiler le spectacle,
non.
Mais il y a cette rencontre avec une femme. On est en tête à tête dans une chambre et on voit tout ce que je fais pour lui montrer que j'ai des bonnes intentions, mais en même temps, j'ai envie d'elle et qu'elle est belle et qu'elle est intelligente et qu'elle me plaît. Moi, je sais que je lui plais et elle veut, elle est là et moi, j'ai peur. Enfin, il y a tout un truc et voilà, il faut écouter cette voix. Entendre la voix de certains hommes qui ont des espèces de craintes ou de... C'est pas nier le combat des femmes contre les abus, quoi. Le combat des femmes contre les abus, il faut qu'il soit fait par les hommes et les femmes et continuer à le faire.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
L'autre, c'est moi, c'était votre troisième one-man show en 2005. 6 spectacles plus tard, on en est à lui-même. Il vous a donc fallu 30 ans pour ne plus être un autre et devenir vous-même ?
Oui. Il m'a fallu... et c'est pas fini, le travail n'est pas fini. J'ai l'impression, tristement, que plus on... En fait, ça prend une vie avant de devenir soi-même, je pense.
De quoi il faut se débarrasser pour essayer de devenir soi-même ?
L'orgueil. L'ego. L'orgueil. La vanité. Il n'y a que ça. Moi, il n'y a que ça.
Et il y en a qui peuvent pas se détacher de ça aussi, peut-être.
Mais moi, j'ai du mal. Même moi, déjà, c'est orgueilleux de dire même moi. Parce que c'est même moi. Pourquoi t'es qui, toi ?
C'est honnête.
Il y a un gars qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et je vais te dire, je suis le mec le plus humble du monde. Et tu imagines cette phrase d'humilité ? C'est fou, quoi. Non, l'orgueil, les amis, l'orgueil. On est plein d'orgueil et on ne sait même pas. C'est-à-dire que chaque jour, on est plein d'orgueil. Je ne parle pas de l'orgueil de la frime, non, même l'orgueil du quotidien, le petit orgueil de toutes ces petites phrases de « à mon petit niveau » et ça, moi, je ne suis pas comme toi, machin. Tout cet orgueil rampant qui nous habite, qui nous dévore et qui nous empêche d'être vrai finalement et qui nous empêche de faire des grandes choses. L'orgueil, c'est terrible. L'ego, c'est terrible.
L'orgueil, ça peut être un manque de confiance.
C'est un moteur aussi.
Ouais, ça peut être un manque de, ça peut cacher un manque de confiance aussi. On fait genre, quoi.
Ok. Non, moi, je pense que l'orgueil, par exemple, les gens autour de moi qui ont des projets qui n'arrivent pas à les mettre en pratique, en action, souvent, c'est l'orgueil qui les bloque. Ils ne sont pas victimes d'un système. Souvent, quand tu t'interroges vraiment et tu essaies de faire l'inventaire et tu essaies de faire le travail sur toi, tu vois que l'orgueil t'a empêché de te réaliser. L'orgueil t'a fait faire des erreurs. Moi, l'orgueil m'a fait faire des erreurs. L'orgueil m'a fait dire des conneries. L'orgueil m'a fait aller dans des endroits où je ne devais pas aller, avoir des attitudes que je ne devais pas avoir. Et l'orgueil, vraiment, nous cause vraiment des problèmes.
Gad Elmaleh, on part en 2022. Nous sommes le 23 décembre à Rome. Vous vous apprêtez à rencontrer le pape François. Vous interrogez la foi dans votre film Reste un peu, la religion aussi. Dans la plupart des religions, on retrouve la notion de pardon. Vous dites dans votre spectacle lui-même « Ceux qui m'ont abandonné, je leur ai pardonné ».
Ouais.
Fort.
Ah oui. C'est une découverte, un apprentissage, un travail et une grâce et une joie que j'ai eue de découvrir et de pouvoir pardonner et de savoir que pardonner, c'était la guérison du cœur. Et que pardonner, c'était profondément, je ne le dis pas comme une posture ou un donnage de leçons, c'est la guérison du cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va nous emmener vers la vérité et qui va nous faire rester dans une forme de lumière, de vérité, profondément.
J'ai une phrase que je trouvais super bien. J'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai la liste.
Ah, c'est Thierry l'Ermite, ça. Non,
non, c'est Sempé, le dessinateur.
Ah, vous voyez, comme quoi, parfois, hein, c'est de là que viennent après les accusations de plagiat.
Rendons à César ce qui est à César.
Vous savez qui c'est, ça?
Non.
C'est Jésus.
Ah ouais, ouais. D'accord. Gad Elmaleh, on finit ce voyage en musique.
Par
non,
Jésus.
C'est vrai ou pas?
Ah bah oui,
ah
non,
oui.
C'est ça, non?
Ouais.
En plus, vous parliez du pape, tac, là, la connexion, paf, pouf.
Gad Elmaleh.
Le pape, paf, Jésus.
Gad Elmaleh.
Oui, tout à fait.
On finit ce voyage en musique. Amar Diab, Tamalamak, et les mots de Nietzsche, deviens ce que tu es.
Wow.
On peut terminer comme ça cette émission.
Deviens ce que tu es. Merci infiniment, Déborah. Merci, merci, merci. À la fin de cette émission, je suis plus moi-même qu'au début, mais malheureusement, c'est fini.
J'ai adoré votre spectacle, surtout à un moment donné. Ça, c'est pour reprendre les mots de Johnny Hallyday.
Voilà, qui me l'a vraiment dit.
Dont vous nous parlez sur scène.
Qui m'a vraiment dit, j'ai adoré ton spectacle, surtout à un moment donné. Dommage, je ne sais pas l'imiter, il faudrait que Laurent Gérard m'apprenne. J'ai adoré ton spectacle, surtout à un moment donné.
Lui-même, c'est
là, j'étais un peu limite Bruel.
Allez-y.
J'ai fait un truc. J'ai adoré ton spectacle, surtout à un moment donné. Donc je ne saurais jamais de quel moment donné il voulait parler.
Lui-même, c'est à découvrir en tournée au Dôme de Paris du 28 janvier au 15 février. C'est l'élégance d'un geste, l'éloquence d'une quête. Une quête de sens, c'est une réflexion sur la vie, sur nos vies. Il n'y a pas que des rires, il y a des « Oh non, oh, oh !»
C'est bien, vous le faites très bien.
Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous pour les podcasts de l'émission sur l'appli ICI. Prenez soin de vous, salut.